évasion vers ce pavis qu'il adoptera un jour et qui délivrera à l'écrivain qu'il veut devenir une suite de prix littéraires prestigieux, celui des critiques pour le Préau, du Renaudot pour le voyage à l'étranger et du Femina pour le soleil se lève sur Obia. Nous sommes à l'époque où la guerre avait transformé Fribourg en un véritable centre culturel. À Londres, sur la cathédrale Saint-Nicolas, Pierre-Jean Joux y écrivait les strophes de « À une soie », pendant qu'à celle de Notre-Dame, dans la belle maison Mugheim, Balthus peignait sur un mode grave la vallée du Gotteron. L'hôtel suisse, l'aigle noir, le café des Arcades, voire la pâtisserie Perriard pour les plus délicats, et la librairie où Georges régnait en compagnie de Gérard Buchet, étaient les points de rencontre de nombreux intellectuels réfugiés que nous aimions, parce qu'ils apportaient avec eux, dans ce petit pays aux frontières fermées par la guerre, l'air vivifiant du grand large. Le jeu des très appréciés libraires noue de solides amitiés dans ce Fribourg qu'il aimera peu à peu, mais où lui pèse par moments une atmosphère par trop cléricale. Ça a changé. Et c'est pire, décrivait-il alors, de l'internat. Il est rejeté par elle dans un passé empreint de tristesse, celui qu'il a si bien exprimé dans le Préau. Ses admirations d'alors vont à l'abbé Journet, dont il défend les courageux articles qu'il publie dans Nova et Cetera, à Georges Cataoui, enfoui dans ses écharpes, qui n'empêche pas d'être le premier biographe de De Gaulle, au père de Menasse, à Don Duisper, ou à l'étourdissant et jeune professeur de philologie Gianfranco Contini. Georges fréquente à l'occasion de très vivants cercles artistiques. Il se lie d'amitié avec de jeunes intellectuels en rupture de franquisme, comme Ramon Sugranyes, ou de vichisme, comme l'épouse et la fille de l'ancien ministre René Meyer, et de bien d'autres, avec lesquels fraternisent des fribourgeois, dont l'inoubliable Henri Droupet, Jean Beck, président de la Société des conférences, ou le jurassien et déjà très érudit Pierre-Olivier Walzer, que j'ai le plaisir de saluer parmi nous. On ne dira jamais assez, a-t-il écrit dans la préface qu'il a consacrée à mon exposition de 1978 au musée, combien ce Fribourg, partagé harmonieusement entre la gothicité et le monde latin, avait alors rassemblé d'intelligences diverses et de talents. De la ville, Georges affectionne par-dessus tout le vieux quartier. Il fera découvrir aussi bien à Raymond de Vincent qu'aux auteurs qu'il rencontre dans sa maison d'édition. Son ami Charles Albert, qui vient de débarquer à Fribourg, avec son bel lot évidemment, trouve en lui un défenseur inconditionnel. Le poète troubadour, auteur de l'admirable et originale musique de Fribourg, pressent quant à lui chez Georges l'écrivain en devenir. Les premiers essais que celui-ci me fait lire dans ses cahiers bleus d'écolier au papier quadrillé, tu te souviens ? Révèle déjà son goût éperdu de la vie, son pouvoir d'émerveillement devant l'humble quotidien et cette manière unique qu'il a de rendre la nature complice de ses ferveurs. Nous devions rejoindre l'un et l'autre pour d'assez longues périodes militaires nos unités respectives. Georges, dans la DCA, où il fonctionnait en qualité de postier, et moi, dans l'aviation, où j'étais aussi invraisemblable que cela puisse paraître, aide-mécanicien, sur Morane et sur Messerschmitt. Par la cause militaire, nous échangeons de longues correspondances propres à distraire d'une longue attente, car nous piaffions d'impatience, nous souhaitions l'un et l'autre gagner cette France que nous aimions, et dont nous découvrions l'âme et ses richesses infinies au travers des ouvrages qui paraissaient aussi bien au Cahier du Rhône, au Port de France ou à la Luf. Bernard Antonio apportait de la France libre à Fribourg les précieux manuscrits. Et nous vivions d'autant mieux l'aventure de l'esprit que les circonstances en avaient réduit la géographie. De Claudel qui venait de faire paraître à la Luf Présence et prophéties, nous dévorions Partage de Midi, qui n'avait pas encore été édité et qui circulait sous le manteau dans sa version dactylographiée. Je t'envoie Partage de Midi, m'écrivait Georges de sa thébaïde de Saint-Saphorin en septembre 43. Puis il verra de nombreuses fautes de frappe, mais cela ne t'empêchera pas de te laisser remporter par cette action la plus dramatique que je connaisse. Et plus loin, je me permets de vous rapporter ces lignes qui révèlent son enracinement fribourgeois. Dimanche dernier, je ne suis pas venu à Saint-Saphorin, mais j'ai accepté enfin l'invitation de l'abbé Panchaud. Je suis arrivé le samedi soir, trempé jusqu'aux os à Châtenay, où j'ai été reçu selon l'hospitalité ecclésiastique, qui n'est certes pas légendaire. C'est un trait chic-tique que l'abbé Panchaud, une sensibilité presque aussi douloureuse que la mienne. Nous avons eu en commun une pénible et chagrine enfance et le même don d'apitoiement subit sur soi-même, sur les autres. Nous avons discuté tard dans la nuit, nous faisant de grosses confidences. Nous étions un peu sous de mots, d'opinions, d'émerveillement. Il a fallu tout cela calmer et ce fut délicieux. Entre parenthèses, j'écris comme Madame de Sévigné. Nous avons fini chez un paysan entouré de sa famille, silencieuse et pleine de fourrures refoulées. Il y avait 6 à 7 petites filles. Le père, vêtu en armaillis gréolien, nous a proposé un yass que j'ai fait avec entrain, avec le curé, la mère, le père. Je suis reparti le lendemain matin tôt, devançant une pluie torrentielle et descendant de Benno pour ramasser sur les chemins les noix que le vent avait éparpillées et les boires juteuses, les astringentes, comme je les aime et comme je les désire au début de l'automne. J'ai retrouvé de pénibles travail, mais heureux, et cela a duré toute la journée. Fin de citation. Cette vie que nous nous affermissons dans l'inconfort et dans la nécessaire espérance continue jusqu'au moment où nous sommes tout à la joie d'enfoncer sur la carte de France, étalée dans une chambre du café du Belvédère, au moyen d'épingles colorées, l'avance des armées alliées. La libération ouvre d'abord à Georges les portes de cette France qu'il a toujours aimée d'un amour immodéré et qui ne lui rendra bien. Sans rien changer à sa nature profonde, ni à cet esprit d'enfance et de contemplation dont il ne s'est jamais départi, Paris lui permettra d'épanouir pleinement ses dons, et cela depuis bientôt un demi-siècle. Régulièrement, Fribourg voit revenir l'écrivain que nous sommes heureux de fêter ce soir, sous des prétextes divers, anniversaire ou causerie, vernissage ou séance de signature, ou pour rappeler à l'université, en compagnie de Jeanne Hersch, le souvenir du vertigineux abbé Journet, comme aimait à le définir Charles Albert. De ces passages à Fribourg, je retiendrai pour terminer le souvenir de 2 moments qui vont nous délivrer une part des secrets de son art d'écrire. Dans le premier, Georges nous demande de le conduire à l'hôpital de Saint-Loup, où son ami Gustave Roux est hospitalisé. Enjoué, plus taquin qu'à l'ordinaire, l'écrivain vaudois ne cesse d'interroger Georges sur sa vie parisienne et sur ses dangers. Avec ruse et tout en riant comme un collégien pris en faute, Georges déjoue les astuces du questionneur qui veut lui faire avouer que la perception de l'essentiel au moment privilégié de l'état poétique se fait plus intense dans la solitude campagnarde que dans la vaine agitation de la grande ville. Défendant la thèse inverse, Georges appelle Baudelaire au secours et prétend qu'il lui est plus facile d'exprimer l'odeur du foin coupé sans être en contact direct avec la nature. En état de manque, de préférence, l'acte d'écrire se faisant plus facile pour lui en étant intensifié par le souvenir, selon la leçon de Proust. L'on écrive à Fribourg ou à Paris, cela importe peu, il est vrai, si le talent parvient à ouvrir les portes de l'humain et de l'universel. Le second témoignage se situe à la librairie Meyer, où Georges est en train de dédicacer son voyage à l'étranger. Il est tout ému lorsqu'il voit arriver l'abbé cardinal Journet, le vieil ami de toujours qui lui dit tout de go. Il est bon, votre livre. C'est comme chez Mozart, dès que vous vous laissez rallier à un aveu, nécessairement triste, vous enchaînez aussitôt sur un mode joyeux. C'est l'amour de la vie qui vous délivre et vous conduit. C'est vrai, car pour qui connaît Georges Borgeau, chaque minute du présent, il la vit et nous la restitue avec un regard ironique et tendre sur lui-même et sur les autres. Notre ami sait bien, comme l'a dit Jacqueline Piatier dans Le Monde, que le bonheur ne va pas sans ascèse, mais que par la vie intérieure, il peut être conquis. Et traduit cela va de soi par ce bonheur d'écrire dont Frédéric Vandler, subtile analyse de l'œuvre de Georges Borgeau, va nous entretenir maintenant. Merci.